le magazine des Nations Unies.
À la une, Leïla Zerougui plaide pour un appui aux autorités congolaises devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la chef de la MONUSCO, des nouvelles dynamiques sont en cours vers une paix durable et la stabilité en RDC. La rougeole tue en RDC plus de 203 000 cas, dont 4 000 décès en 2019. L'UNICEF et ses partenaires se mobilisent pour sauver des millions d'enfants congolais par la vaccination. Les détails dans un instant. Santé toujours, il faut 14 milliards de dollars au Fonds mondial pour vaincre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme dans le monde. La conférence internationale de Lyon en France et la situation de la pandémie du Sida en RDC. Une experte de Médecins sans frontières nous en parle dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Leïla Zerougui plaide pour un nouvel appui aux autorités de la RDC devant le Conseil de sécurité. Pour la chef de la MONUSCO, des nouvelles dynamiques positives susceptibles de mener la RDC vers une paix durable et la stabilité se mettent en place après la transition pacifique du pouvoir que le pays a connue en janvier dernier. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est exprimée mercredi dernier devant le Conseil de sécurité réuni en séance publique. Leïla Zerougui a saisi l'occasion pour encourager toute la classe politique congolaise à soutenir ces nouvelles dynamiques et œuvrer à leur consolidation. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution.
De nouvelles dynamiques positives, susceptibles à terme de mener le Congo vers une paix durable et la stabilité se mettent en place suite à la transition pacifique du pouvoir que nous avons connu en ce début d'année. Un gouvernement de coalition a été mis en place avec un programme ambitieux qui vise à stabiliser le pays, améliorer sa gouvernance et le mener vers le développement économique. Tout en poursuivant notre soutien aux autorités congolaises pour la neutralisation des groupes armés qui représentent une menace inacceptable pour les populations civiles, nous devons ensemble renforcer les fonctions régaliennes de l'État et sa capacité à gérer le pays en promouvant un État de droit.
La RDC enregistre depuis janvier 2019 203 000 cas de rougeole, dont 4 000 décès, chiffre fourni par l'UNICEF cette semaine. Selon cette agence, l'épidémie est devenue beaucoup plus mortelle que celle d'Ebola qui a causé 2 143 décès. L'UNICEF vaccine des milliers d'enfants et fournit des kits médicaux dans différents centres de santé en République démocratique du Congo. Les détails avec Jean-Pierre Ilali Coco.
Les chiffres de l'UNICEF sont alarmants. Un peu plus de 203 000 cas, dont 4 000 décès. Les enfants de moins de 5 ans représentent 74% des infections et près de 90% du décès. Ces tableaux sombres placent la rougeole au premier rang des épidémies les plus meurtrières en RDC, loin avant le VIH-Sida et Ebola. Cette situation est due au fait que des millions d'enfants n'ont pas été vaccinés et qui n'ont pas accès aux soins quand ils sont malades, indique le représentant de l'UNICEF en RDC. Devant cette situation, l'UNICEF et ses partenaires, dont le gouvernement, n'ont pas croisé les bras. L'agence a déployé cette semaine et continuera à le faire la semaine prochaine 1111 kits médicaux supplémentaires vers les centres de santé dans les zones à risque de rougeole. Ces kits contiennent des antibiotiques et des sels de réhydratation, de la vitamine A et d'autres fournitures pour soigner plus de 111 000 personnes infectées par cette maladie virale. Nous luttons contre l'épidémie des rougeoles sur deux fronts, prévenir les infections et prévenir les décès, a déclaré Edouard Belvedere. Pour rappel, l'année dernière, l'agence onusienne a fourni plus de 8 millions de doses de vaccins contre la rougeole pour les interventions d'urgence mises en place par plusieurs organisations. L'UNICEF a aussi organisé la réponse à l'épidémie dans 8 provinces durement touchées, vaccinant ainsi plus de 1 million d'enfants, en particulier dans le Kasaï central, où plus de de 210 000 enfants ont été vaccinés. Notons enfin que le gouvernement se prépare au lancement de la prochaine campagne de vaccination de suivi contre la rougeole pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Ce sera le 22 octobre prochain sur toute l'étendue de la République.
Une trentaine d'agents provinciaux de la Commission nationale des droits de l'homme Kinshasa, désormais outillés pour des enquêtes relatives aux violations des droits de l'homme, et cela après une formation de 2 jours dispensée dans le cadre du partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Honoré Missenga Kalala pour les détails.
Du 9 au 10 octobre 2019, les agents provinciaux de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH Kinshasa ont ainsi appris des techniques, notamment sur comment faire le monitoring des violations des droits de l'homme et comment mener ses enquêtes sur ces violations et avec quelles sources. Des matières enseignées essentiellement par les experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, parmi lesquels Corinne Nguegang, coordinatrice du Bureau terrain de Kinshasa. Cette dernière a circonscrit la tenue de cette formation dans le cadre du mandat d'appui institutionnel de la MONUSCO aux institutions nationales impliquées dans la promotion et la protection des droits de l'homme, comme c'est le cas avec la CNDH. Monsieur Kouete Mwana Kouete, coordinateur provincial de cette institution dans la ville-province, a salué ce genre d'activité qu'il voudrait voir continuer.
Ce sont les sentiments de joie. Nous venons de subir une formation depuis 2 jours. Les gens ont assimilé de la matière. Maintenant, ils sont capables de procéder à des enquêtes et des contrôles pour constater les cas de violation des droits de l'homme dans la ville-province de Kinshasa. La demande est qu'ils ne se fatiguent pas de notre formation, parce que la formation est continue. Nous avons besoin de leur soutien pour les différentes formations. Il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons besoin de former les hommes pour les constats et dénoncer tous les cas de violation. C'est très important que notre partenaire, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, ne soit pas loin de nous.
Cette même formation a déjà été organisée dans les autres provinces où la mission onusienne est opérationnelle.
La prévalence en VIH-SIDA a connu une diminution significative ces 2 dernières années. Elle est passée de 34 000 à 13 000 cas et 55% des Congolais connaissent leur statut viral, a révélé Médecins Sans Frontières, MSF, lors d'une conférence de presse mardi à Kinshasa. Ceci en rapport avec la grande conférence du Fonds mondial sur le SIDA, le paludisme et la tuberculose qui s'est ouverte mercredi à Lyon en France. Nonobstant ces avancées, MSF prévient que dans un pays où 1% des personnes sont atteintes de cette maladie, les défis en termes de prise en charge, d'accès aux soins et de sensibilisation demeurent encore colossaux. Pascaline Rayer, coordonnatrice du projet VIH-SIDA de MSF à Kinshasa, explique au micro de Jean-Pierre Lali Coco.
Dans l'activité qui se tient à Lyon maintenant est une grande rencontre pour le Fonds mondial pour planifier les activités qui vont avoir lieu dans les 3 années à venir en fonction du financement qu'ils vont obtenir. Donc l'objectif du Fonds mondial est ici d'atteindre 14 milliards. Et nous, pourquoi on organise ce café presse-là en parallèle de cette conférence à Lyon? C'est justement pour conscientiser les gens ici en RDC sur l'importance de ces financements internationaux pour la prise en charge du VIH-SIDA. Certaines personnes ont tendance à penser que l'épidémie est sous contrôle, que les besoins ne sont plus aussi importants qu'auparavant. Or, ce n'est pas du tout la réalité. Tous les patients qui sont déjà sous traitement ont besoin de continuer cette prise en charge et il y a encore de nombreuses personnes qui ne sont pas prises en charge actuellement. En RDC, à peu près 50% des gens qui ne sont pas encore pris dans le système de prise en charge et de mise sous traitement. Donc c'est extrêmement important que la communauté internationale finance le Fonds mondial et d'autres partenaires aussi. Alors Médecins Sans Frontières ici en RDC et dans d'autres pays aussi se focalise sur le VIH, mais qu'on se focalise sur le VIH avancé parce qu'actuellement ce n'est pas une prise en charge qui est prise en compte par les partenaires internationaux.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En marge de la célébration de la Journée internationale de la paix, le MAG UN a reçu le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, FPU-RDC, une ONG au statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. La Fédération pour la paix universelle est une alliance internationale résolue justement à bâtir un monde de paix. Nous reproposons son entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi la paix?
La paix telle qu'est vue par la FPU, fondée par le révérend Dr Samuel Moon, c'est ce principe d'équilibre et d'harmonie à tous les niveaux. Sans paix, la vie de l'homme, la vie elle-même, n'a pas son sens. Parce que tout le monde veut vivre en paix. La paix, c'est une denrée que tout le monde recherche, qui est devenue rare, où partout dans le monde, on ne fait que proclamer la paix. Même le Christ a dit qu'il est venu procurer la paix. Même la Bible nous parle de la paix. La paix est d'une importance capitale. Tout le monde voudra vivre en paix, même les animaux.
Donc la paix va au-delà de l'absence du crépitement des armes.
Oui, c'est l'absence du crépitement des armes, mais plus que ça, ce que nous avons dit, que c'est ce principe d'équilibre et d'harmonie à tous les niveaux. Quand il y a équilibre, harmonie à tous les niveaux, niveau individuel, niveau familial, au niveau de la société, des nations et dans le monde, la paix, c'est quelque chose de très important, parce qu'elle doit commencer d'abord dans l'individu, elle va aller dans la famille, la société, la nation et dans le monde. Ainsi, la paix va régner et l'unité va régner également dans le peuple partout où les gens se retrouvent.
Alors, quand les Nations Unies célèbrent la journée de la paix, que représente pour la FPU cet événement?
Cet événement est d'une importance capitale. D'abord, la FPU, qui est un partenaire de grande taille de l'ONU, célèbre toutes les journées et les fêtes proclamées par l'ONU. Le fondateur, qui est un homme épris de paix, participe à tout ce qui est lié à la paix. Et comme nous sommes partenaires de l'ONU, c'est pourquoi nous célébrons cette journée, comme toutes les autres journées que l'ONU célèbre. Et c'est le monde entier qui célèbre cette journée. La FPU, qui est une organisation internationale qui travaille sous statut général de l'ONU, il ne peut qu'accompagner l'ONU en célébrant cette journée.
Cette année ici, le slogan c'est « Action climatique, action pour la paix ». En quoi alors le climat peut-il avoir un impact sur la paix dans le monde?
Sans un bon climat, l'homme, les animaux ne peuvent pas vivre. Quand on voit le climat, on voit l'environnement. Quand l'homme ne peut pas rester dans un environnement propice, la paix elle-même, elle est menacée. Si aujourd'hui l'ONU choisit ce thème, c'est parce qu'aujourd'hui, la question du climat devient une question très très importante. Et la FPI également travaille là-dessus. C'est pourquoi Mme Dr. Atia Hanmoun, dans toutes ses interventions, parle de questions environnementales. Parce que Dieu, avant de pouvoir créer les êtres humains, il a eu d'abord l'environnement. Et dans cet environnement, il a mis des conditions telles que l'homme puisse vivre dans la quiétude. Mais l'homme qui détruit le même environnement ne peut pas vivre dans un environnement malsain. Donc sans un bon environnement, on ne peut pas vivre en paix également. Nous devons comprendre que nous sommes les responsables de notre environnement. Et pour cette journée, nous allons clôturer une année des missions publiques des jeunes missionnaires en collaboration avec la Fédération pour la paix mondiale et l'unification. Avec les jeunes missionnaires qui ont travaillé sur le terrain, ils sont allés dans les villages, dans les cités pour apporter ce qu'ils ont reçu comme éducation. Cette éducation intérieure et extérieure, ils ont travaillé dans l'environnement, ils sont allés dans les villages. Nous allons clôturer cette année des missions. Également, nous avons travaillé avec la jeunesse et avec les familles dans le cadre de pouvoir créer les actions de propriétaires autour de nous et également dans notre environnement. Donc, nous allons clôturer cette année des rallyes, des nettoyages, d'éducation du caractère dans les écoles. Nous sommes allés à Kenge, à Kikwit. Les jeunes étaient au Congo central. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est montrer aux autres jeunes qui doivent travailler centré sur la pureté, centré sur un environnement meilleur et pur. C'est pourquoi nous avons choisi cette journée pour la clôture de toutes ces actions que nous avons menées, centrées sur la pureté sexuelle, centrées sur le partage et le service.
Parlons de la FPI elle-même. Quel rôle joue-t-elle concrètement pour le rétablissement de la paix dans le monde?
La FPU joue et a joué un grand rôle pour l'établissement de la paix dans le monde. C'est pourquoi il y a eu des initiatives, beaucoup d'initiatives de paix au Moyen-Orient. La FPU a un projet que nous appelons le package. Ce projet est même dédié à l'Afrique. Il y a le DU projet pour une Afrique céleste. Il y a également l'association des parlementaires pour la paix qui travaille avec tous les parlements du monde. Il y a l'association internationale des chefs traditionnels pour la paix. Vous savez, les chefs traditionnels sont ceux qui sont les propriétaires des terres et il y a beaucoup de conflits et avec les chefs coutumiers. Quand ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer, ils peuvent ainsi créer la paix autour d'eux. Nous avons l'association interreligieuse pour la paix et le développement.
Nous avons la Fédération des jeunes et étudiants pour la paix. Toutes ces associations travaillent dans l'éducation du caractère pour former les citoyens de demain dans le but de pouvoir créer un monde et une famille de paix. Il y a eu des sommets. En Afrique, nous avons le premier sommet qui a été organisé au Sénégal, à Dakar. Il y a eu le sommet qui a été organisé en Afrique du Sud. Il n'y a pas longtemps, je venais de Sao Tomé et Principe. Et je vous dis que la FPI a joué un grand rôle et joue aujourd'hui un grand rôle pour l'unité entre les deux Corées. Et la FPI est un partenaire au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui travaille pour l'établissement de la paix. La FPI discerne même le prix Sanak de la paix. Et ce prix est donné aux personnes qui travaillent au service des autres.
Révérend Jean-Pierre Kadima Moudadi, merci.
Voici à présent nos informations en plus bref. Afin de lutter contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en République démocratique du Congo à travers UNMAS, la MONUSCO soutient le projet de marquage et d'enregistrement d'armes légères utilisées par les services de sécurité nationaux dans la province du Tanganyika, un projet initié par la Commission nationale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre et la réduction de la violence armée. Autre soutien de la mission onusienne, c'est celui que la MONUSCO apporte à la justice militaire congolaise pour la tenue des audiences foraines dans le procès du chef milicien Raia Mutomboki Kokodi Koko. Nous sommes à Shabunda au sud Kivu. Il s'agit d'un soutien technique et logistique. Enfin, à Kananga, dans la province du Kasaï central, plus d'une centaine d'élèves officiers finalistes de l'Académie militaire de Kananga ont été informés sur le travail de la MONUSCO. C'était lors d'une rencontre organisée le 5 octobre 2019 au quartier général de la mission onusienne. Les chefs des différentes sections sont revenus au cours de cette séance sur le rôle de la MONUSCO. Ce rôle s'est traduit actuellement par la contribution à la protection des civils et la stabilisation ainsi qu'au renforcement des institutions des étatiques.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche est Madame Pascaline Rayer, coordonnatrice du programme VIH-SIDA à Médecins Sans Frontières. Le Fonds mondial tient une conférence internationale à Lyon, en France, pour mobiliser 14 milliards de dollars afin de lutter contre le VIH-SIDA, le paludisme et la tuberculose. Elle évoque l'importance de cette réunion et fait un état des lieux de la pandémie du VIH-SIDA en RDC et la prise en charge des patients au stade avancé de la maladie. Madame Rayer répond aux questions des gens. Jean-Pierre Elali Koko.
Il se tient à Lyon, en France, une conférence du Fonds mondial sur le VIH-SIDA, la tuberculose et les paludismes. Alors, quel est l'intérêt de cette rencontre pour le monde en général et la RDC en particulier ?
Cette rencontre, elle est très très importante actuellement parce qu'en fait, c'est une conférence qui va permettre de réconcilier les financements pour donc le VIH-SIDA, la tuberculose et la malaria pour les 3 années à venir pour le Fonds mondial. Ce fonds est vraiment important pour le monde entier parce qu'il y a encore de grands défis en matière de VIH et très spécialement aussi pour la RDC où il y a de grands gaps encore à remplir. Donc c'est important qu'aujourd'hui, dans tous les pays, on parle de cette conférence qu'il y a lieu à Lyon parce que c'est des pays du monde entier qui sont concernés par les éléments qui vont être discutés là-bas et par l'argent qui va pouvoir être récolté là-bas pour la prise en charge, dans notre cas, du VIH-SIDA.
Il s'agit là d'une conférence pour faire les plaidoyers, pour avoir beaucoup plus de fonds et faire face aux maladies que je viens de citer.
Oui, c'est une partie des fonds. Il y a d'autres organismes, d'autres fonds qui existent aussi pour prendre en charge ces maladies. Il y a donc le Fonds mondial, mais il y a aussi PEPFAR. Les ambassades aussi ont des actions par rapport à ça. Donc c'est important qu'à tous ces niveaux-là, il y ait une augmentation des fonds par rapport à ce qu'il y a actuellement. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus spécifiquement de cette conférence du Fonds mondial. Il faut savoir quand même que dans les estimations de l'ONU-SIDA, on pense qu'il faudra à peu près 26 milliards de dollars par an pour répondre à l'épidémie à un niveau mondial. Et actuellement, on est plutôt autour de 19 milliards.
Et en RDC ?
En RDC, je n'ai pas les chiffres exacts. Une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas un nombre d'habitants exact dans le pays pour calculer les besoins réels. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a encore de nombreux gaps. On estime entre 450 000 et 515 000 patients atteints par le VIH-SIDA. Et parmi eux, seulement entre la moitié et 60% sont mis actuellement sous traitement. Donc il y a encore 40 à 50% des personnes qui ont le VIH-SIDA qui ne sont pas mis sous traitement et qui donc n'ont pas une prise en charge adaptée par rapport à cette maladie.
maladie. Justement, quel est l'état des lieux de cette maladie, notamment en ce qui concerne la prise en charge?
En RDC, je vous ai dit qu'il y a entre 450 000 et 515 000 personnes atteintes, mais en plus de ça, la difficulté qui est rencontrée en RDC, c'est toutes les barrières qui font que les personnes n'ont pas encore facilement accès au dépistage et au traitement. Parmi ces barrières, il y a les croyances erronées par rapport à la maladie, il y a les ruptures de stock de certains médicaments dans les structures ou de tests de dépistage, il y a la stigmatisation qui est encore extrêmement importante en RDC, il y a la mauvaise connaissance ou l'insuffisance de connaissance par rapport à la maladie de la part de la communauté, donc des individus eux-mêmes, mais aussi de la part du personnel de santé. Dans certaines structures, les connaissances sont encore très limitées et les réflexes ne vont pas vers le dépistage VIH-SIDA face à certains symptômes des patients qui viennent consulter. Donc il y a encore de nombreux freins qui font que les patients ne viennent pas se faire dépister et prendre en charge.
Pourtant, à la conférence de presse, vous avez dit, on a noté une certaine évolution positive quant à la prise en charge et même du nombre des patients qui souffrent de cette pandémie.
Tout à fait. Donc il y a de réelles progressions. Hein. Le tableau n'est pas totalement négatif. Si on compare à 2010, on estime qu'il y a à peu près la moitié de décès par rapport à 2010, ici maintenant en 2018, et une réduction de 30 à 35% de nouvelles infections par le VIH. Donc ce sont des résultats très positifs, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et ce que nous, on veut aujourd'hui en tant que MSF, avec cette sonnette d'alarme qu'on souhaite tirer en parallèle de la conférence de Lyon, c'est justement rappeler et à la RDC et à tous les partis possibles dans le financement que la lutte n'est pas encore du tout gagnée. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir atteindre les objectifs nécessaires et supprimer cette épidémie.
Oui, et vous, Médecins Sans Frontières, vous avez une spécialité, c'est que vous occupez des patients au stade avancé de la maladie, donc du VIH-SIDA. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez beaucoup plus à cette catégorie de malades?
Actuellement, la réponse au VIH-SIDA est essentiellement le dépistage et la mise sous traitement. C'est quelque chose d'extrêmement important, qui fait partie aussi de la cascade de prise en charge qui est recommandée par l'ONU-SIDA. C'est très important, mais ça ne suffit pas. On a en parallèle des patients qui ont le VIH-SIDA mais qui se portent encore bien, on a aussi des patients dans un état critique de santé avec
qui sont malades, effectivement.
Voilà, qui sont malades et qui sont en état critique de santé avec toute une série d'autres pathologies associées qui peuvent être la tuberculose, des infections bactériennes, des infections cutanées, des cancers. Il y a toute une série de méningites, il y a toute une série de pathologies qui peuvent se développer chez une personne en stade avancé du VIH-SIDA parce que son système immunitaire est devenu très bas.
Comment s'est fait la prise en charge?
Alors, ces patients sont pris en charge avec un paquet de soins très complet. Donc nous, au niveau de MSF, on procure ces soins-là de façon gratuite parce que les patients avec le VIH, comme beaucoup d'autres patients, mais aussi les patients avec le VIH, sont souvent dans des situations très démunies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec beaucoup de stigmatisation, beaucoup de nos patients sont rejetés par leur communauté. Donc on donne une prise en charge gratuite et on fait l'ensemble des soins. Il y a aussi quelque chose de très important qui est l'accompagnement psychosocial qui est indispensable pour ces patients pour qu'ils puissent continuer à garder une forme de motivation dans la prise en charge de leur traitement.
Et c'est précisément où, en République démocratique du Congo, vous êtes?
Actuellement, on a des actions essentiellement à Kinshasa et dans l'est du Congo, du côté de Goma.
Pour terminer, Madame Pascaline Raillé, quels sont les grands défis qui se présentent actuellement en République démocratique du Congo dans la lutte contre cette pandémie?
Les grands défis actuels sont tous ces combats contre les barrières que je vous ai dit tout à l'heure. L'accès aux soins, la stigmatisation, ça fait partie des grands défis que nous avons. Les ruptures de médicaments qui sont quand même encore nombreuses, ça fait partie des grands défis. En parallèle de ça, justement, il y a aussi tout ce côté prévention et prise en charge du VIH avancé qui est pour le moment très réduite en RDC. Donc ce que MSF souhaite ici aussi, c'est bien sûr que le Fonds mondial puisse arriver à récolter les 14 milliards qui souhaitent récolter pour les 3 années à venir, mais même qu'on aille encore au-delà de ça. Il y a des besoins qui sont plus importants, enfin pas plus importants, mais il y a d'autres besoins en plus que le dépistage et la mise sous traitement. Il y a d'autres besoins qui sont là, comme la prise en charge du VIH avancé, la gestion des ruptures, la prévention de la communauté et le partage d'informations de la communauté par rapport au VIH et avoir de bons messages par rapport au VIH et tout ce qui est aussi accompagnement psychosocial des patients.
Quand on parle d'ICIDA, on voit l'ONU-SIDA. Comment est-ce que se passe le partenariat avec l'ONU-SIDA et bien d'autres partenaires qui travaillent, vous, dans ces domaines?
Comme pour tout combat, la collaboration est un élément de base pour que ça puisse bien fonctionner. Il est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, comme vous venez de le dire. Hein. Certains partenaires travaillent davantage sur le dépistage et la mise sous traitement. Nous, on est plus orientés vers la prise en charge du stade avancé du VIH. Ce qui est indispensable, c'est qu'on trouve une dynamique de fonctionnement pour qu'on puisse se compléter et absolument pas se concurrencer. Et donc, il y a régulièrement des rencontres qui se font entre les différents partenaires pour favoriser ça au maximum.
Pascaline Raillé, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Maintenir l'équilibre mental en vue d'améliorer la qualité des rapports dans le milieu du travail, c'est l'objectif d'une séance de travail organisée par la MONUSCO pour ses agents à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année. Nous allons à Kalemi dans la province du Tanganyika où François-Xavier Mibé nous fait le point.
Aujourd'hui, de quoi es-tu reconnaissant? As-tu souri aujourd'hui? Prends soin de ton bien-être, de ta santé mentale, de ta santé physique. C'est autant de sujets que la section médicale de la MONUSCO a mis à la disposition de son personnel. L'infirmière et animatrice principale de l'activité, Flora Assina.
Il ne faut pas avoir des soucis ou bien des problèmes dans ta tête. Si tu as des problèmes, tu t'affectes toi-même. Dieu a créé l'homme pour qu'il surmonte des difficultés. Même la maladie, c'est toi-même qui dois l'éviter, physiquement et mentalement.
Le personnel de la MONUSCO sensibilisé à la bonne vie mentale est appelé à jouer dans sa vie professionnelle, à l'équilibre travail-vie personnelle, à l'environnement de travail, au développement personnel et professionnel, et enfin à penser aux activités récréatives.
La MONUSCO a besoin de personnel à bonne santé. Si tu n'es pas à bonne santé, tu ne peux pas produire. La production sera insuffisante. Priorité, c'est la santé.
La sensibilisation que mène la MONUSCO sur la santé mentale se poursuit même dans le bureau où travaille son personnel. Sur l'écran de chaque ordinateur mis à la disposition de chaque agent, se retrouvent encore des mots qui appellent chacun et chacune à veiller sur sa vie mentale. François-Xavier Mbé, Radio Okapi, Kalemi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et nous revenons sur la conférence de presse de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU du 3 octobre dernier. Madame Zerougui répond à une question sur la situation de la MONUSCO.
Madame Leïla Zerougui, le chef de l'État dit, je reprends ces mots, mon pays a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO réadaptée à la réalité, c'est-à-dire non pléthorique, bien équipée et dotée son mandat adapté à l'instar de la brigade d'intervention qui nous avait aidé à combattre le M23. Ma question est de savoir, madame, qu'est-ce que vous sous-entendez par cette incise du chef de l'État? Est-ce que vous êtes déjà mis d'accord sur le nombre exact des troupes de casques bleus en RDC?
J'étais dans la salle quand le président a fait son discours. Ce que je voudrais souligner, vous le savez, l'année dernière, nous avons fermé 8 bureaux. Nous avons déjà réduit les troupes. On a déjà fait partir la force spéciale qui était au sud Kivu, égyptienne. Les deux bataillons pakistanais et indiens sont sur le départ. Nous avons fait partir une FPU indienne et nous avons coupé 800 postes, comme vous le savez. C'était l'année dernière, tout le monde nous interpellait pourquoi on coupe des postes. Cette année, par exemple, le Conseil de sécurité nous autorise à 16 000 et sur les 16 000, on n'a que 13 000 aujourd'hui. Donc on a déjà 3 000 en moins. Donc nous sommes dans une reconfiguration. Nous nous sommes concentrés dans 6 provinces. Nous discuterons avec le gouvernement. Nous travaillons pour stabiliser les Kassai et le Tanganyika. Si les choses se passent bien, nous pouvons aussi fermer nos bureaux dans ces provinces. Si la situation de FRPI, de la violence à Djougou se consolide en Ituri, nous allons aussi fermer. Nous ne sommes pas dans une période d'expansion. Les États bailleurs ne veulent plus payer. Nous avons chaque année des réductions budgétaires depuis 2011 en fait. On était à 22 000 troupes, on est à 13 000. Staff, par exemple, on était presque à 5 000, on est aujourd'hui à 2 000, 2 000 Congolais et 600 internationaux. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Moi-même, j'ai demandé qu'on ne touche pas le budget pendant au moins cette année pour nous permettre de consolider dans les Kassai, dans le Tanganyika, etc. Donc on n'est pas dans une phase d'expansion, on s'inscrit dans la démarche que souhaitent les autorités, parce qu'après tout, c'est leur décision. Quel rôle on donnera aux troupes, c'est pas moi qui décide, c'est le Conseil de sécurité.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
À présent, retenez dans vos agendas ces dates. 15 octobre, journée internationale de la femme rurale. 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et 18 octobre, journée mondiale de la ménopause. Voilà tout pour cette émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Koko, Honoré Missinga Kalala au reportage et à la réalisation. À la technique, c'était Jean-Noël Mokondo et devant ce micro, Belinda Bosuma. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain sur la Radio de la Paix.